Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. Après 10 mois d'une saison aussi passionnante qu'éreintante, c'est l'heure du dénouement. Castres-Montpellier, ce sera donc l'affiche de la finale du top 14 vendredi soir au Stade de France. Et pour en parler avec nous, celui qui connaît bien ces ambiances de finale, notre légende aux deux boucliers de Brennus, Imanol Arinordoki. Salut Imanol.
Bonjour les champions.
Tu gardes quelques souvenirs dans un coin de ta tête, puisque je te demanderai quand même de nous parler de tes deux finales remportées il n'y a pas si longtemps.
Avec grand plaisir.
Eux, ils mériteraient presque un bouclier pour l'ensemble de leur œuvre. Nos grandes plumes du Midi Olympique, Jérémy Fada et Simon Valzar. Salut les gars.
Salut.
Allez messieurs, au programme d'Arrêt Buffet, on va parler bien sûr de cette finale Castres-Montpellier. C'est vrai, c'est une affiche que peu de monde avait pronostiquée. Elle oppose pourtant les deux premiers de la phase régulière. Alors cette question, pourquoi si peu de considération pour ces deux équipes? Doit-on parler de finale des mal-aimés? Et puis dans cet Arrêt Buffet, on va également parler dans la deuxième partie de la tournée du 15 de France au Japon. On ne peut pas dire pour l'instant qu'elle déchaîne les passions avec une liste dévoilée par Fabien Galthié sans la plupart des cadres et 17 joueurs à zéro sélection. Alors, qu'attendez-vous de cette tournée? A-t-elle vraiment un intérêt? Et y a-t-il encore des places à prendre à un an de la Coupe du Monde? Préparez vos arguments, messieurs. Arrêt Buffet, c'est parti. Ça y est, nous y sommes. Castres-Montpellier, ce sera donc la finale vendredi soir au Stade de France. Avant de parler plus en détail de cette affiche entre Castres et Montpellier, d'abord, Imanol, toi, quel souvenir gardes-tu de ces finales, de cette ambiance, de cette excitation avant d'aborder le plus grand match de la saison? Toi, tu as gagné deux boucliers.
Ben oui, moi, j'ai la chance de gagner deux boucliers avec le BO, deux années de suite, donc en 2005 et 2006, et bon, je dois t'avouer que c'est vraiment le sacre, c'est quelque chose d'assez exceptionnel à vivre, à fêter aussi, voilà, parce qu'on parle beaucoup de ce qu'a pu voir ou a pu entendre le bouclier de Brennus, c'est pas une légende, mais voilà, c'est vraiment assez incroyable de se retrouver déjà au Stade de France, et puis de lever ce bouclier, même quand on est gamin, on se dit que ça nous arrivera jamais, et le jour où ça arrive... C'est un bonheur et une fierté immense parce que ben forcément, on joue pour nous, mais on joue aussi pour sa famille, pour ses amis qui sont souvent là ce jour-là. Et ça permet de partager ça aussi avec les supporters. Moi, je garde en mémoire le retour à Biarritz la première année où je ne me rendais pas compte de l'importance que pouvait avoir ça pour les supporters. Et je voyais des papis et des mamies qui pleuraient au balcon quand on passait et qui nous remerciaient alors que bon, finalement, on avait gagné qu'un match de rugby. Mais voilà, c'est le bonheur que ça peut procurer aussi aux gens. Et ça, ça nourrit la bête quand même. C'est vraiment, ça remplit le moteur. C'est quelque chose d'assez incroyable à vivre, ouais.
C'était la grande époque des Galactiques, évidemment, du Biarritz, d'Imanol Arinordoki. Bon, allez, on va parler maintenant de cette affiche, de cette finale entre Castres et Montpellier. Alors, c'est vrai, ils étaient peu nombreux à imaginer Castres faire chuter le champion toulousain et voir Montpellier étouffer Bordeaux dans ses demi-finales. Pourquoi a-t-on le sentiment que ces deux équipes ne sont pas jugées à leur juste valeur? C'est vrai, on l'entend, cette petite musique, ceux qui font la fine bouche, ouais, Castres-Montpellier en finale, c'est pas Toulouse, il n'y a pas des internationaux, c'est pas Bordeaux. Je parlais de finale des mal-aimés, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est presque ça quand même, non, Manol?
Aujourd'hui, c'est pas un sentiment, c'est quelque chose qui est réel, parce que ce ne sont pas deux équipes... qui jouent en prime time les week-ends, que l'on met en avant, dans lesquels il y a le plus d'internationaux. Ce sont plutôt deux équipes aussi qui aiment pas trop faire parler d'elles dans les médias, avec des managers qui font pas des grandes déclarations. Donc voilà, on va dire que c'est pas des bons clients pour les médias. Ceci étant dit, après voilà, ce sont deux équipes qui avancent souvent cachées dans l'ombre, mais qui travaillent dur. Montpellier qui à la suite de leur titre de challenge européen l'année dernière, sont vraiment sur une dynamique très positive, avec un tout autre état d'esprit, des joueurs surtout qui se font plaisir et qui ont une force de caractère à jouer ensemble assez exceptionnelle. Et les Castres qu'on connaît, hein, mais qui ont aussi muté même suite à l'arrivée d'Henri Broncan, avec... avec Darek Arrière. Donc, c'est deux équipes aujourd'hui qui méritent leur place. Alors, oui, on dit que ce sont les deux équipes qui ont fini première du championnat. Bon, ces places étaient quand même indécises jusqu'à la fin, parce qu'il faut rappeler que c'était quand même très serré sur 5-6 équipes qui auraient pu postuler à ces places-là. Maintenant, il y a une logique, voilà, c'est elles qui ont fait le job tout au long de la saison et qui se retrouvent aussi en finale, qui m'ont paru quand même aussi qui étaient en demi-finale avec beaucoup plus de fraîcheur que ses homologues et qui méritent, en tout cas au vu des demi-finales et de leurs prestations, cette place en finale largement.
Olivier, aussi pour répondre à ta question, j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, les regards sont beaucoup tournés sur l'équipe de France, au moins au niveau du grand public, parce qu'on a retrouvé une sélection qui séduit, qui gagne, qui amène un petit peu tout son pays dans son sillage. Et il faut bien dire aujourd'hui que ces deux équipes-là, ce ne sont pas les plus gros pourvoyeurs d'internationaux. Donc pendant le dernier Grand Chelem ou lors de la victoire contre les Blacks, on n'a pas vu beaucoup de Castrés, pas vu beaucoup de Montpelliérains. Alors il y a Gaëtan Barlow qui est numéro 3 au poste à l'honneur, Paul Villemcé qui était le taulier numéro 5. Mais sinon, voilà, il y a moins de Castrés ou Montpelliérains que de Rochelais, de Toulousains, de Toulonnais, etc. Et je pense que c'est ce qui fait qu'auprès, en tout cas, du grand public, il manque peut-être un peu cette notoriété, d'autant que ces deux équipes qui ont encore jamais fait un très gros parcours en Champions Cup, qui peut aussi amener cette notoriété. Après, comme le disait Emmanuel, il y a une forme de logique, ce sont les deux premiers, et je ferai juste remarquer que ça fait 3 saisons d'affilée, sur les saisons qui vont à leur terme, que les deux premiers de la phase régulière se retrouvent en finale. Du coup, c'est plus vraiment un hasard. Aujourd'hui, il n'y a plus de barragistes qui vont jusqu'en finale, c'est bien que quelque part, éviter la case barrage, c'est un vrai avantage aujourd'hui.
Ouais, nous, on a vraiment senti, hein, du point de vue des médias, que les gens, en fait, avaient envie de lire des choses sur l'équipe de France, qu'ils avaient envie de suivre leur héros. Et nous, vu qu'on est de ce côté-là de la barrière, on a bien vu que les papiers, n'importe quel papier qui parlait d'Antoine Dupont, cartonnait. Alors, c'est vrai que c'est peut-être injuste pour les autres équipes, mais c'est vraiment ça. Je pense que ces clubs ont vraiment profiter du levier de l'équipe de France. Alors c'est vrai que cette année, je tiens quand même à rappeler que Montpellier fournit quand même pas mal d'internationaux. Cette année, ils en ont fourni un petit peu moins, parce que Awas, donc, notamment, a perdu sa place de numéro 1. Arthur Vincent était blessé. Mais Anthony Boutier aussi est un peu sorti de la course, même si, à mon sens, il mériterait d'être rappelé. Et il ne reste plus que Paul Villemcé, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est aussi une année de transition pour Montpellier. Hein. Faut se souvenir qu'ils ont vraiment vécu une galère terrible l'année dernière. Comme disait Emmanuel, ils sont restés sur leur dynamique de la fin de saison précédente. Et c'est vrai que ce sont deux équipes qui aiment à avancer cachées. Donc finalement, c'est assez logique.
Mais toi, Simon, qui suis les Montpellierains dans la saison, on pourrait poser la même chose, évidemment, la même question aux Castrés. Mais comment ils le vivent, justement, cet état de fait de vivre dans l'ombre, de ne pas forcément être reconnu? Il doit y avoir une part de vexation quand même.
Bah, oui, alors c'est marrant parce que justement, le manager Philippe Saint-André souffle un peu le chaud et le froid, quoi. Là-dessus, d'un côté, moi, parfois, j'entends, il me dit qu'ils sont contents d'avancer caché, tout va bien et tout ça. Et quand on vient les voir après la victoire, notamment en demi-finale, et presque il se plaint d'avoir eu ce statut d'outsider, parce qu'il en fait des caisses sur personne ne nous voyait gagner, tout ça, tout le monde nous voyait cuit, alors que bah, je sais pas, moi je trouvais pas, quoi. Moi, je trouvais que Montpellier, au contraire, avec cette semaine de régénération supplémentaire, et puis surtout la cohésion qu'il y a dans leur groupe, il faut le souligner, qui clairement a fait défaut à l'UBB sur la demi-finale. Moi, j'étais persuadé que Montpellier avait de larges chances de l'emporter. Donc, c'est vrai qu'ils sont, un peu entre les deux. Ouais. Ils se cachent, mais en même temps, ils disent « Ouais, on ne vous parlait pas beaucoup de nous » et tout ça. Et ils s'en plaignent un peu. C'est assez
c'est un levier de motivation, ça. Tu te bats contre les médias. C'est le classique, ça.
Ça marche tout le temps, ça.
Et Philippe Saint-André, quand il dit ça, il nous parle pas à nous, il parle à ses joueurs. Il savait très bien que ses joueurs vont le lire et que ça va remonter tout le monde. Philippe Saint-André, aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui sait manager un groupe, qui est très fort sur les leviers humains. Et c'est pareil de l'autre côté, du côté de Castres. C'est depuis la nuit des temps, j'allais dire. Et Castries, il le cultive. Il le cultive, cette humilité. Il n'empêche, nous, on a eu un journaliste de Midi Olympique qui, pendant 3 jours, la semaine dernière, était en inside avec les Castries. On a fait une double page lundi pour un petit peu montrer comment ils ont vécu un peu tout ça, notamment face à l'ogre toulousain. Voilà, ils s'en servent un petit peu de ce côté les petits contre les gros. Et juste pour terminer, Montpellier, je vous rappelle qu'il y a quelques années, c'était l'effet inverse, c'était tous les Sud-Africains, c'était Moed Altrad.
Les stars, les salaires mirobolants.
Qui a attisé un petit peu, peut-être pas la haine, mais en tout cas la rivalité. Aujourd'hui, je pense que Philippe Saint-André, son grand succès, c'est d'avoir fait rentrer les Montpelliérains dans le rang. Et je crois que ça leur allait très bien d'avancer un petit peu caché depuis quelques semaines.
Bon, alors ce match maintenant, cette rencontre vendredi soir au Stade de France, Emmanuel, tu t'attends à quelle finale? À quel genre de match? J'ai vu sur Rugby Rama lundi que tu mettais en avant notamment la qualité défensive hein, des deux équipes. Ce n'est pas leur faire injure, mais c'est vrai que on s'attend à un gros choc entre deux équipes physiques qui présentent de très bonnes dispositions dans ce registre de la défense. Hein.
Ah non, ce n'est pas faire injure à une équipe de dire qu'elle est très forte défensivement. Les titres, on les gagne d'abord sur la défense, sur comment savoir sortir de son camp sans prendre de points, et sur la discipline. Et on a eu un très bel exemple de ce constat lors des deux demi-finales, avec deux équipes qui ont très très bien défendu, qui ont fait très peu de fautes, qui sont bien sorties de leur camp. Et j'oubliais forcément le fait d'avoir une très bonne conquête. Maintenant, j'ai peur que ça soit aussi une finale un peu cadenassée. J'aimerais voir du jeu pour cette finale. Alors, c'est pas gagné parce que les deux équipes défendent quand même très très bien, mais peut-être amener un peu d'alternance qu'on a moins vu en demi-finale, à savoir des jeux au pied. Je pense que peut-être le salut d'une des deux équipes passera un peu par le fait de jouer un peu, d'alterner au jeu au pied, des petits coups de pied par-dessus la défense pour freiner un peu ces défenses quand même qui montent très fort.
Moi, ce qui me fait peur, c'est l'échange de justement de jeu au pied long, quoi, le ping-pong, du ping-pong rugby. Et pour en avoir parlé après leur demi-finale gagnée par le Stade Toulousain, les Castrés, ils adorent ce jeu-là. Julien Dumoram disait c'est un jeu qu'on pratique toutes les semaines aux entraînements. On ne fait pas que ça, bien évidemment, mais on le pratique toutes les semaines lors de nos séances à haute intensité. On le maîtrise totalement. Si on doit faire 10 échanges de jeu au pied avant que la moindre opportunité se présente, on le fera. Et finalement, ça ne s'est pas joué à grand-chose parce que les Castrés ont fait des erreurs au pied. Ça leur a coûté 2 essais. Je rappelle quand même, l'essai de Lebel et l'essai de Ntamack, c'est sur des mauvais jeux au pied, enfin, ou en tout cas des jeux au pied mal couverts, mal chassés de Benjamin Urdapilleta par ses coéquipiers. Donc, ça leur a aussi causé des torts. Mais globalement, sur l'ensemble de la partie, et malgré tous les efforts de Thomas Ramos, de Romain Ntamack, d'Antoine Dupont, c'est eux qui ont eu le dernier mot dans ce registre-là. C'est ça qui me fait peur pour la finale. J'ai peur qu'on ait vraiment de longues, longues,
et attends, Simon, des finales ouvertes à 25 essais, il n'y en a pas non plus chaque année. Hein. Je n'ai pas le souvenir que l'année dernière, le Stade Toulousain est ébloui en finale avec son jeu offensif. Hein.
Tout à fait. Et même, tu peux revenir à l'avant-dernier titre du Stade Toulousain. C'était aussi une finale, c'était une boucherie, c'était que des mêlées. Donc, c'est vrai que les profils des équipes n'y font pas grand-chose. Mais là, quand même, en plus, on a deux équipes, comme le disait Imanol, qui sont… Voilà, très porté sur l'occupation, sur la défense et tout ça. Donc, voilà, moi, c'est ma petite…
Et Emmanuel, ça veut dire quoi? Quand on joue une finale, quand même, surtout, on ne prend pas de risques. C'est ça que ça veut dire, malgré le talent offensif
notamment, en général, la première mi-temps. Hein, il y a toujours un jeu d'observation. On essaie de rester concentré sur ce qu'on a travaillé, de ne pas trop s'exposer, comme disait Simon, de ne pas jouer dans son camp. Ça, c'est deux équipes qui le font parfaitement. Et après, voilà, ça se jouera peut-être sur des approximations. Je pense qu'à la mi-temps, le score sera très serré. Après, les deuxièmes mi-temps, on verra suivant la fraîcheur des deux équipes, mais peut-être qu'il y aura un peu plus d'opportunités. J'ai quand même senti la volonté de la part de chacune des équipes de vouloir jouer et tenir le ballon quand elle était dans le camp adverse. Malheureusement, bon, on a eu peu d'essais, puisque en tout cas sur des phases sur des phases statiques, ou en tout cas sur des phases où ces équipes-là avaient le ballon, on a vu des essais sur des pertes de ballon, ou voilà, des essais à pas beaucoup de passes. Mais j'ai senti la volonté, en tout cas, de ces équipes de tenir le ballon et d'essayer de produire du rugby contré par la défense adverse. Voilà, mais bon, on verra ce que ça donne samedi. Mais j'espère que c'est l'équipe qui essaiera de produire un peu plus, comme je disais, soit par du jeu à la main, soit peut-être par des passes au pied. Voilà, mais pas pour occuper le camp adverse, mais pour trouver des solutions, soit sur les côtés du terrain, soit par des petits jeux au pied par-dessus. Qui remportera cette finale.
Surtout qu'il y a du talent des deux côtés, d'être derrière. Au niveau 3 quarts, on a envie de voir du jeu, quoi. Il y a des joueurs ultra talentueux des deux côtés.
Ouais, et puis faut dire quand même que les Castrés, à l'image un petit peu de leur saison, je trouve quand même que face au Stade Toulousain vendredi soir, ils sont rapidement menés. Alors certes, dans les fondamentaux, ils ont su un peu remuer le cocotier aussi par moment, quoi. Ils vont inscrire des essais, il y en a qui sont refusés. Encore une fois, à l'image de ce qu'ils ont fait cette saison, je trouve que ces Castrés sont capables d'emballer un petit peu le match. Et j'allais dire, l'adversité va peut-être être un petit peu là-dessus. Philippe Saint-André, après la demi-finale de Montpellier, on était tous les deux avec Simon en conférence presse, nous disait « Moi, j'adore que mes équipes soient pragmatiques ». Et c'est vrai, c'est à son image. Il a beaucoup aimé les deux drops passés par les Montpellierains, parce que ces deux drops-là, qu'on le veuille ou non, ils font un bien fou au moment où ils arrivent. Il a aimé avoir ce gamin Aprasidze sur le terrain qui vous claque deux pénalités de 55 mètres. C'est pas, peut-être pas ce qu'il y a le plus spectaculaire, mais c'était quand même ultra important à ce moment-là. Et quelque part, voir ce gamin, moi, je ne savais pas qu'il avait ce coup de pompe-là, le voir passer deux pénalités de 55 mètres, ça a ajouté du piment à ce scénario. Et c'est vrai que Philippe Saint-André, dans la construction de ses équipes, il adore avoir ses joueurs capables, au moment important, faire le geste important, quoi.
Les joueurs à suivre dans cette finale, selon vous, dans les deux équipes, c'est la charnière, évidemment, on met toujours en avant la charnière. C'est vrai qu'elle a pesé, côté Castré. C'est quoi? C'est Arata, l'Uruguayen, et Urda Pilleta, le doyen, l'Argentin.
Oui, ça va être forcément dans la construction du jeu et dans la maîtrise aussi des nerfs, parce qu'il faudra s'engager, mais être à la limite et pas commettre trop de fautes. Donc forcément, les deux numéros 10 de chaque équipe auront un rôle prépondérant. On a vu que j'ai eu une interview de Jean-Baptiste Elissalde qui disait que Carbizi pouvait avoir tendance à s'énerver s'il n'arrivait pas à mettre en place ce qu'il voulait. Donc voilà, est-ce que les Castrés vont essayer un peu d'axer leur match sur ce joueur-là, je sais pas, mais bon. On a vu aussi quand même que la conquête de Montpellier avait fait mal à la conquête de Bordeaux vendredi dernier, notamment en touche. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de domaines comme ça qui chaque ballon va coûter très cher. Donc le scénario risque d'être serré et comme l'a dit aussi Jean-Baptiste Lissalde, peut-être qu'ils vont devoir jeter la pièce en l'air et voir de quel côté elle retombe. Il ne faudra pas trop laisser de points en route, ça c'est sûr.
Moi, il y a un duel que j'attends au centre du terrain, c'est Yann Serfontaine, Viliami Botitou. Alors là, attention, j'aimerais vraiment pas être au milieu de ces deux mecs. Parce que alors là, Serfontaine a fait une demi-finale incroyable contre. C'est lui qui sèche Romain Burros, en fait, qui monte en pointe sur Romain Burros, qui lui fait perdre le ballon.
Et on va marquer le premier essai derrière.
De Ratez. Il fait un contest hyper précieux aussi sur Yoram Moefana.
Un match gigantesque.
Ouais.
Gigantesque.
Et Botitou en face, un mec qui peut te renverser la table à tout moment, quoi. Un mec ultra talentueux. Waouh.
Toi, Jérémy, si tu avais une individualité à mettre en avant dans cette finale ou un duel éventuel.
Non, mais côté Castré, ça va pas être hyper original, mais prenez toutes les dernières phases finales. Un mec comme Urda Pilleta, il a 35 ou 36 balais, ouais. Mais ça reste un champion avec
36, l'ancien.
Extraordinaire, franchement. Il est
sur
il est
la demi-finale, il adresse deux passes au pied dans les angles pour deux essais qui y sont, pour moi d'ailleurs, un qui est refusé et l'autre en fin de match qui vient sceller le sort du match. Donc, il le fait dans des conditions où il est quand même sous pression et il arrive à adresser. C'est la magie des Argentins, ça.
Ah, c'est une machine à gagner.
C'est un champion. Ah ouais. C'est un vrai, vrai, vrai champion. Et après, la deuxième ligne, Montpellier. Franchement, et moi j'ai été le premier à dire, la blessure de Willem C, ça va les tuer.
Ouais,
le match de Verag et Chaluro l'autre soir, quand même, attention, quoi.
Philippe Saint-André place les Castrés légèrement en favori, mais notamment en avant les 24 heures de récupération supplémentaire, puisque les Castrés ont joué le vendredi et les Montpelliérains ont évolué le samedi soir. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un petit peu d'intox, probablement de la part de Philippe Saint-André, ou ça compte quand même?
Ça se discute. Les
Oui.
deux demi-finales se sont disputées dans des conditions caniculaires. Même s'il était 22h, il faisait plus de 30 degrés, c'était irrespirable. Donc ça, c'est vrai que ça peut jouer. Mais les Montpelliérains avaient anticipé le coup. Ils avaient réservé leur hôtel dans un centre qui est équipé d'un centre de thalassothérapie. Et en fait, ils ont commencé leur récupération dès le lendemain, le dimanche matin, 8h30. Donc ça, je trouvais ça plutôt malin. C'est bien, ils avaient anticipé. Donc ce qui veut dire ils avaient commencé leur récup avant même de rejoindre Montpellier. Est-ce que ces 24 heures-là se sentiront vendredi soir? Personnellement, au vu des enjeux, j'en suis pas sûr.
Imanol, toi, ton avis, 24 heures, ça compte? 24 heures de récupération en plus en fin de saison,
Oui,
avant une finale.
surtout que voilà, la finale va arriver vendredi soir. Donc, bon, elle aurait été samedi, je pense que ça aurait équilibré les débats. Mais le fait qu'elle soit vendredi soir, voilà, pour les Montpelliérains, même si j'ai senti quand même très frais sur cette demi-finale, oui, ils vont privilégier la récup, certainement. Ils auront peut-être un peu moins le temps de mettre en place des choses à l'entraînement. Voilà, ça sera basé plus sur la récup. Et c'est sûr que la fraîcheur et l'envie, que ce soit physique ou mentale, elle aura une importance primordiale vendredi soir. Ouais.
Bon,
Après,
légère
dans ces
avant.
matchs en jeu, comme ça, ces finales-là, oh, Imanol, tu nous avais déjà dit, non, une fois que, au bout d'un moment, quand les matchs, il est si important, qu'il y a tellement de charges émotionnelles, tout ça, la fatigue, tu la sens moins quand même, non?
Bah après, oui, en général, tu es prêt. Hein, dès le lendemain de la demi-finale, tu penses qu'à ça. Donc, tu fais le plein d'énergie, tu es excité, tu n'arrives pas très bien à dormir toute la semaine. Tu ne te sens pas fatigué, c'est sûr que tu ne te sens pas fatigué. Après, sur le
Ouais,
match,
tu peux le
suivant les
sentir.
conditions, s'il y a beaucoup de volume de jeu, voilà. Je l'avais dit avant la demi-finale, hein, qu'il y aurait des joueurs qu'on ne connaissait pas trop, qui avaient peu joué, qui feraient peut-être la différence. Alors, je ne me suis pas trompé sur tous, puisqu'on a vu un numéro 9 remplaçant côté Montpellier qui est rentré, qui a fait une rentrée incroyable et qu'on ne connaissait pas.
Ah,
Ce
facilité.
sera encore peut-être le cas vendredi soir.
Moi, j'avais un petit coup de gueule quand même, messieurs, je voulais avoir votre
Ah,
avis là-dessus.
quoi, sur le
Bah...
stade Montois qui n'est pas
Non.
qualifié pour le top 14, non?
Non, ça,
Oh,
j'en ai fait
l'amour! Top 14.
mon deuil, malheureusement. Non, mais c'est vrai qu'on est les premiers à en parler, hein, de la récupération, mais c'est le mot que l'on entend tout le temps, depuis le début de ces phases finales. La récupération, la fraîcheur physique, on n'entend que ça. Et Toulouse était fatiguée, La Rochelle était fatiguée en barrage, Bordeaux a manqué de jus en deuxième période en demi-finale. Bon, là, on nous explique que Castres est favori parce que les Castrés ont joué leur demi-finale 24 heures plus tôt. Vous en avez pas marre d'entendre ça? Ça devient presque insupportable. On a l'impression qu'au
Après,
rugby, c'est le calendrier et l'état de fraîcheur qui déterminent maintenant le vainqueur, non?
la saison, elle dure 11 mois aussi.
Bah oui,
C'est n'importe quoi.
c'est l'organisation du rugby français qui amène à ça,
Bah
qu'on
ouais.
le veuille ou non. Voilà, je pense qu'Imanol est le mieux placé pour parler. On multiplie les matchs, on multiplie les compétitions et on réduit les temps de récupération. À la base, eh ben nous, on l'analyse. Hein.
Alors, c'est Olivier, même si ça te plaît pas, ça a quand même de l'importance. Alors, c'est pas pour ça que les équipes ont perdu. Je pense que voilà que Toulouse aurait pu gagner le week-end dernier, même si on sentait que les Castrés maîtrisaient mieux, notamment la seconde mi-temps. On a senti aussi Montpellier au-dessus physiquement, ou en tout cas dans l'envie. Certainement pour ça aussi qu'ils ont gagné leur demi-finale. Alors, ça ne fait pas tout, parce qu'à ce niveau-là de la compétition, comme tu dis, à un moment donné, on fait abstraction un peu de la fatigue et on a quand même de l'énergie pour jouer ces matchs-là. Mais bon, une chose dont je suis sûr, c'est que c'est bien que les internationaux ne partent pas en tournée après avoir joué cette finale. Parce que nous, quand on jouait une finale de championnat et qu'on l'a gagnée ou qu'on la perdait, on partait directement le lendemain en tournée. Et je peux vous dire qu'on n'avait absolument plus envie de jouer. Voilà, parce que c'est usant aussi mentalement. Ça, plus
Et je
que
pense
plus que
que
de parler de l'usure physique en termes de récupération, c'est plus une récupération mentale. Et quand tu joues pas tous les week-ends, eh bien, ça te permet de revenir avec plus de fraîcheur mentale. Et ça peut faire beaucoup de différence, notamment sur une finale. Et voilà, peut-être qu'un jour de plus supplémentaire, ça te permet, eh bien, de faire autre chose que du rugby pendant la semaine, de t'aérer un peu l'esprit et d'avoir beaucoup plus de fraîcheur mentale ce vendredi, en l'occurrence, pour jouer cette finale. Donc, Olivier Canton, oui, ça a son importance.
Oui, ça a son importance, mais je ne voudrais pas non plus qu'on ne parle que de ça. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que cette année, tout particulièrement, on met en avant, avant tout, la fraîcheur physique et l'importance de la récupération. Après qu'on parle de jeu aussi, de qualité de jeu, avant de parler de physique. Mais bon, c'est un vœu pieux, probablement. Hein.
Tu parlais de la
tournée de l'équipe de France, la transition est toute trouvée, on va en parler dans quelques instants avec la liste de Fabien Gatier. Votre favori quand même pour cette finale, messieurs, allez, Jérémy.
Moi, je vais dire Castres. Parce que j'ai aimé la régularité de cette saison de ces Castrés, j'ai aimé l'évolution. Et comme je ne suis pas tout à fait objectif, je suis totalement admiratif de tout ce que Pierre-Henri Broncan a amené dans ce club depuis un an et demi. Je pense qu'il le mériterait. Voilà.
Ça, Emmanuel, c'est son agent, tu vois, Jérém. C'est l'agent de Pierre-Henri Broncan, tu vois.
Ah, non, je vois.
Ce qu'il a fait, c'est. Non, mais franchement, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Vraiment.
Oui.
Simon.
Bah moi je Montpellier parce que je pour les suivre au quotidien depuis 2 ans maintenant, je vois que cette finale elle a plus rien à voir avec celle de 2018. C'est pas du tout la même histoire, c'est pas le même groupe. Ce groupe a traversé des épreuves terribles et il en est revenu. Et aujourd'hui, il y a dans cette équipe de Montpellier la même solidarité qu'il y a en face à Castres. Et ce qui, à mon sens, fait la différence, c'est que j'ai l'impression que Castres a une mêlée un peu plus faible, avec notamment Quentin Walker à gauche. Qui, je trouve n'apporte pas les garanties suffisantes. Après, je peux tout à fait me tromper, mais je pense que Montpellier aura l'ascendant sur la finale. Et vu que ça se joue à rien, ça peut se jouer là-dessus.
Oui, je précise, hein, tu faisais référence à la finale 2018. C'est vrai que ça, on ne l'avait pas dit, mais c'est la ouais, revanche c'est de cette finale déjà entre Castres et Montpellier, largement remportée. Et c'était une surprise à l'époque par les Castrés.
Avec peu de survivants. Hein.
Oui, c'est vrai.
Un seul.
Emmanuel, toi, ton avis sur cette finale?
Mais écoutez, je pense qu'au bout de la saison, les Castrés mériteraient vraiment de lever ce bouclier. Mais c'est quand même Montpellier qui m'a fait la plus forte impression sur les demi-finales. Donc, je vais privilégier la forme du moment et je mettrai un petit billet sur Montpellier, même si ça va être quand même très serré. Mais voilà, moi aussi, je suis comme Simon, je vois plus Montpellier.
Bon. Réponse vendredi soir au Stade de France pour cette finale entre les Héraultais et les Tarnais. On en parlera évidemment de cette finale la semaine prochaine. Dans Arrêt Buffet, maintenant, on s'intéresse à l'équipe de France. Et oui, on retrouve l'équipe de France. L'équipe de France s'envole cette semaine pour une courte tournée au Japon. 2 matchs sont au programme le 2 juillet puis le 9 juillet. Fabien Galthié a sélectionné 42 joueurs. Que retenir de cette liste? Eh bien, déjà que la plupart des cadres sont absents, laissés au repos, les Dupont, Ntamack, Aldrit, Marchand ou encore Gaël Ficou. Le grand Charles Olivon est de retour. Il est même le capitaine de cette tournée. On compte 17 joueurs à 0 sélection. Il y a pas mal de surprises avec notamment 4 joueurs qui évoluaient cette saison en Pro D2. Alors déjà, on a un envoyé spécial à Marcoussis, c'est Emmanuel Aridordoki. Emmanuel, tu es là-bas, tu rassures-nous, tu ne vas pas partir faire la tournée quand même.
Mais je leur ai juste fait un petit discours voilà, pour qu'ils profitent bien de cette tournée, qu'ils se régalent, c'est le plus important.
Tu aurais dû laisser planer le doute, Emmanuel, franchement, ça nous aurait fait un super titre.
Oui, ou pas.
Déjà, une première question, on peut le dire, cette tournée se prépare dans une relative indifférence. Hein. La preuve, pour l'instant, aucune chaîne de télé n'a prévu de retransmettre les 2 rencontres. Ça va évoluer hein, probablement, mais c'est quand même un signe. Au bout d'une saison interminable, sans les cadres, cette tournée, à quoi sert-elle finalement? Est-ce qu'elle a quand même un intérêt selon vous?
Bien sûr qu'elle a un intérêt déjà pour intégrer voilà, le groupe France. Intégrer les lancements de jeu, le système de jeu, les règles de vie de l'équipe de France, ouais, rentrer un peu voilà, dans ce club, dans cette unité, en faire partie, parce que voilà, le jour où peut-être certains de ces joueurs seront appelés, eh bien, ils connaîtront déjà la maison bleue, et ça leur permettra aussi mais de revenir plus facilement. Mais c'est sûr qu'elle a aussi un intérêt, parce que ça permettra à des joueurs de toucher du doigt le très haut niveau, même si c'est une tournée contre les Japonais qui sont peut-être moins en forme que par le passé. Ça va permettre au staff de faire aussi une revue d'effectifs, à certains de revenir, de montrer de quoi ils sont capables. Et moi, je crois qu'à un an de la Coupe du Monde, il y a toujours des points à gagner et peut-être même des places à prendre pour le futur. Donc, elle n'est pas anodine, cette tournée. Elle est plutôt même, pour moi, assez importante.
Mais là où je rejoins Imanol, c'est que pour moi, aujourd'hui, c'est la dernière période d'essai. Parce que je vous rappelle juste qu'en novembre prochain, on va terminer la tournée en affrontant les champions du monde Springboks. Donc, on ne pourra pas se permettre de faire beaucoup d'essais. Derrière, il y aura un tournoi destination où on va défendre notre grand chelem avec 3 matchs à l'étranger. Aujourd'hui, par l'organisation du rugby français, on part sans les finalistes, on laisse les cadres au repos. Je suis parfaitement d'accord pour dire que c'est archi normal, ils ont besoin de souffler. Et donc, c'est la dernière fois qu'on peut aller tenter des vrais paris sur des joueurs pour voir le potentiel. Et l'année dernière, il y a une vraie jurisprudence, elle s'appelle Melvin Jaminet. Oui, l'année dernière en Australie, tout le monde misait sur lui. Melvin Jaminet, 5 mois plus tard, il était titulaire et buteur contre les All Blacks. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aura pas un Melvin Jaminet dans ce groupe-là? Et dernière chose, je pense que peut-être on va en parler un peu plus, elle est ultra importante pour un homme, qu'on le veuille ou non, il s'appelle Charles Olivon. Voilà, on a assez parlé, hein, c'est le premier capitaine de l'air Galtier. Depuis, évidemment, Antoine Dupont avait pris le relais de manière magnifique. Il n'empêche, cette tournée, elle va permettre à Charles Olivon de revenir en équipe de France, de reprendre ses marques. L'absence de Dupont fait qu'il n'y a pas de polémique ou de débat, c'est lui le capitaine. Il va aussi reprendre des responsabilités. Et je crois que c'était hyper important de réintégrer ce joueur par cette tournée au Japon.
Oui, il joue gros, Charles Olivon, dans cette tournée. C'est son retour, hein. C'est vrai qu'il avait été absent très longtemps, il avait raté le match face à la Nouvelle-Zélande, il était absent du Grand Chelem pour cause de blessure, il avait même raté la tournée d'été.
Pour lui, elle est cruciale à un an de la coupe du Monde, sans parler du fait qu'il retrouve le capitana, il retrouve cette place de titulaire, ça va lui permettre de revenir en équipe de France avec une place de titulaire et peut-être même de convoiter à nouveau le fauteuil de capitaine en vue de la Coupe du Monde. Donc oui, c'est sûr qu'elle est, pour lui, elle est très importante dans la façon de mener ses hommes, dans son leadership, dans la continuité de ce qu'il a pu faire au début de l'ère Galtier. Ouais.
Et puis sportivement, il va devoir repasser devant, enfin regagner sa place aussi. Enfin, sa place, il l'a parce qu'il est capitaine là, mais sportivement, il va falloir qu'il prouve qu'il est devant les Cross, les Woki, les Jelonge, enfin tous les mecs qui ont apporté toutes ces certitudes. Et enfin, on a 4 troisième lignes en équipe de France, donc je ne vais pas vous refaire toute la liste. On ne sait plus où les mettre, tellement il y en a. Pour revenir sur l'autre question, cette tournée, ça va être encore la même que l'Australie, quoi. Fabien Galtier, il va secouer l'arbre du rugby français et vous allez voir qu'il va encore tomber des talents. Et il tient, il l'avait encore redit en interview, il tient vachement à ce numéro de 42 joueurs, je ne sais pas pourquoi, il est vachement mystérieux là-dessus, mais il tient à avoir ce réservoir-là, et vous allez voir qu'on va avoir des surprises, comme l'année dernière. On avait sorti Barlow, on avait sorti, comme Jérémy a dit, Jaminet et tout ça, on va en sortir d'autres, et ça va encore renforcer la concurrence au poste.
Et Olive, petite chose, qui à mon sens n'est pas anecdotique, on en est à 8 victoires d'affilée. Si la France gagne ces 2 tests, elle va égaler le record de l'histoire qui date des années 30. Et si on n'en gagne rien qu'un, 9 victoires d'affilée, c'est du jamais vu après, dans l'après-guerre. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais Imanol, qui connaît aussi bien cette nouvelle génération, peut-être que sa génération à lui était peut-être un peu moins attachée aux chiffres. Ils sont drogués à ça aujourd'hui, ces mecs-là, aux records, aux titres. Et je suis persuadé que ce n'est pas anodin pour eux que d'aller battre un record du rugby français.
Non, mais c'est sûr, hein, y a toujours des objectifs. Être les premiers à réaliser quelque chose, c'est toujours porteur, hein, même en notre époque, même s'il n'y a pas très longtemps, hein, Jérémy, merci. Non, je crois que c'est important et je pense vraiment qu'en plus que Fabien Galtier va axer aussi son discours là-dessus, ouais, bien sûr, pour donner de l'importance à cette tournée et donner de l'importance, voilà, aux joueurs, ouais, bien sûr.
Et qui pour tenir alors ce rôle d'ovni cher à Fabien Galtier? On pense au Max Spring, le joueur du Racing, à Nolan Le Garec.
Max Spring, le joueur de l'US Nafarroa, qui est Garastar de
le Basque,
de chez toi.
On pense aussi aux 4 joueurs de Pro D2 qui sont invités dans cette tournée.
Le Garec Spring, super joueur.
Bon, très bien.
Sur le talent pur, alors c'est vrai qu'on est ultra fourni au poste de demi de mêlée. Ce qu'est en train de réaliser Nolan Le Garec depuis quelques semaines, c'est franchement impressionnant. Après, ce n'est pas du tout une surprise, hein, moi, pour avoir conversé plusieurs fois avec Sébastien Piccheroni, qui maintenant est en post-apo, mais qui avant était le grand Manitou de nos moins de 20. Il me l'avait annoncé déjà il y a 2 ou 3 ans. Hein. Ce gamin-là, il a tout, quoi. Il a tout. Alors attention, lui, il peut vraiment venir bouleverser. Je ne dis pas d'aller prendre la place d'Antoine Dupont, pas du tout. Par contre, il peut vraiment venir bouleverser la hiérarchie des numéros 9. J'en suis persuadé.
Ouais. Moi, je pense que c'est le joueur qui a le plus à gagner, ouais, sur cette tournée.
Et ce serait terrible pour Maxime Lucu, qui fait une fin de saison stratosphérique avec l'UBB.
On n'en est pas là hein, pour l'instant.
On n'en est pas là. Ouais.
C'est toujours le numéro 2. Pour en terminer sur cette liste, on va parler de ceux qui n'y sont pas. Justement, est-ce qu'il y a des perdants quand même dans cette liste, moi, spontanément, puisque j'ai vu sur Rugbyrama, on pense évidemment à Ramos, à Baptiste Serin, également des garçons comme Teddy Thomas. Là. Ceux qui ne sont pas dans cette liste-là, ils auront du mal à revenir maintenant à un an de la Coupe du Monde, un peu plus d'un an de la Coupe du Monde.
Je me permets de démarrer, je mets un vrai bémol sur Thomas Ramos, qui est quand même vraiment dans les plans. Il a été sur toutes les feuilles de match du tournoi Destination.
Ouais, il a beaucoup joué. Ouais. Il a quand même beaucoup joué.
Voilà, c'est un mec qui a énormément joué. Parce que, notamment, vu qu'il n'a pas beaucoup joué pendant le tournoi, sur les week-ends de repos du tournoi, lui, il a été renvoyé à Toulouse, il rejouait. Je vous rappelle juste que quand Romain Tamac a été mis au repos pour le match du Stade Toulousain à Toulon, c'était lui qui portait le numéro 10. Il a fait une fin de saison stratosphérique avec Toulouse, où il jouait 4 minutes à chaque fois. Je crois vraiment qu'il fait partie des plans, ils ont voulu le faire souffler. Je crois que c'est un cas à part. À titre perso, c'est mon
avis. C'est Baptiste Serin, moi, qui m'interpelle. Parce que les 9, c'est comme les 3e ligne, on ne sait plus où les mettre, on en a trop. Mais c'est vrai que Baptiste Serin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au vu de la deuxième partie de saison de Toulon, de son retour après cette grave blessure, ça aurait pu être pas mal, je pense.
Emmanuel, t'en penses quoi, toi? Les perdants?
Non, pas plus. Je pense que Thomas Ramos, là, il a été plus épargné. Non, après, j'ai toujours mon pari en cours avec Teddy Thomas. Donc, Teddy, si tu m'écoutes, ne me lâche pas quand même, parce que j'ai dit que tu serais titulaire à la Coupe du Monde. Donc, mais voilà, c'est un joueur aussi qui va changer de club et ce changement peut lui faire beaucoup de bien. Donc voilà, moi, je pense qu'il va revenir.
Teddy Thomas et un autre.
Je le lâche pas.
Un autre joueur du Racing qui aurait pu quand même espérer, même voir deux, c'est Camille Chat, qui aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'il a beaucoup reculé dans la hiérarchie des talonneurs, et Bernard Leroux, qui n'est pas là. C'est vrai que je trouve que c'est dur hein, ce qui est arrivé. Ouais. Le déclassement de Bernard Leroux depuis un an et demi, il est dur, même si on a des très bons deuxième lignes.
Ça a été brutal. Je trouve que ça a été brutal et pas forcément justifié. Je crois que ça a été vraiment brutal pour le Roux.
Écoutez, on va surveiller évidemment de près cette tournée de l'équipe de France. Donc, le premier test, ce sera le 2 juillet. Il y aura donc 2 matchs face à cette équipe japonaise. C'est vrai que sportivement, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut. Hein. Depuis son quart de finale lors de la dernière Coupe du Monde, on n'a pas eu trop de nouvelles. Il y a eu le Covid. C'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, on en saura un petit peu plus le 2 juillet. Rassure-nous, donc, Emmanuel, tu ne prends pas l'avion avec l'équipe de France, c'est certain. Tu seras avec nous la semaine prochaine.
Oui, j'ai oublié mes crampons.
Bon, à la boulette. L'erreur du rookie. Voilà, l'erreur du débutant.
Bon, tu seras donc avec nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt Buffet. On reviendra évidemment sur la finale du Top 14. On parlera encore de cette équipe de France. Merci beaucoup. Merci. Allez, à la semaine prochaine.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.